Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Et bienvenue à l'Institut d'astrophysique pour la dernière conférence de l'année scolaire 2024-2025. C'est la dernière conférence qui a lieu dans cette salle. Normalement, en septembre, l'amphi rénové nous accueillera et beaucoup plus nombreux. Je ne sais pas à quoi il va ressembler parce que c'est toujours fermé, donc on ne l'a pas vu, mais il paraît que ce sera très bien. Donc on a tous les espoirs possibles. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Gouin. J'annonce quand même la conférence à venir, la prochaine. Donc ce sera le mardi 2 septembre. Ce sera Frédéric Daigne de l'IAP qui va nous parler de la mission SVOM et l'étude des sursauts gamma dans un amphithéâtre, donc théoriquement rénové et prêt. On espère surtout qu'il sera prêt pour le 2 septembre. Voilà. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Gouin. Je dirais presque que je l'ai connue toute petite. Enfin, vous allez voir, c'est quand même pas tout à fait ça. Donc elle vient de Rennes, où elle a suivi des études en faculté de physique. Elle a fait un master d'astrophysique à l'Observatoire de Paris. Et puis, elle a fait sa thèse à l'IAP. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on la connaît. Ensuite, elle est allée en post-doc, d'abord à l'IAS, donc à Orsay. Ensuite, en Corée du Sud. Et puis, de nouveau à l'IAP. Et elle est chargée de recherche au CNRS depuis novembre 2024. Donc, depuis novembre 2024, on la voit se promener dans les couloir avec un sourire jusqu'aux oreilles, voilà, parce que c'est quand même extraordinaire d'arriver à avoir un poste permanent. Il n'y en a pas énormément qui y arrivent, donc quand ils y arrivent, c'est effectivement une belle réussite. Et donc ce soir, elle va nous parler de la place des amas de galaxies dans notre univers. Merci Céline.
Merci. Ah, le son est parfait. Je pense que j'ai déjà été présentée. Je voudrais commencer par une introduction pour voir où est-ce qu'on est, en fait, nous, dans l'univers, et après, justement, voir la place des amas par rapport à nous. Donc, nous, on est sur la planète Terre, qui se situe dans la Voie lactée, mais en fait, entre notre planète et notre galaxie, finalement, déjà, il y a énormément de structures. Donc, quand on compare un tout petit microbe par rapport à la taille de la Terre. La différence d'échelle, c'est la différence entre notre Terre et la Voie lactée. Donc ça vous dit à quel point on est petit par rapport à la Voie lactée. Donc on peut voir du système solaire jusqu'aux ceintures d'astéroïdes. Finalement, on est dans un nuage à l'abri. Et de ce nuage à l'abri, on est entouré d'autres étoiles. Donc voilà, on a nos voisins, Proxima du Centaure, Antares, Bételgeuse. Donc on est plutôt dans un quartier résidentiel. On a plein de petites étoiles à côté. Et finalement, dans une bulle qui se situe dans un bras de la Voie lactée. Donc pareil, on est plutôt à l'abri. Donc, dans cette Voie lactée, notre système, je ne sais pas si j'ai un pointeur, donc en fait, il est juste là, dans un bras. Donc, finalement, on reste en banlieue. Ok, j'ai le laser maintenant. Mais ça affiche plus la vidéo. Non, j'ai. Ça s'est fait direct. Ouais. Bon, sinon c'est pas grave.
Bah si, c'est grave.
Enfin. Pour remettre l'écran, mais après. Ouais, ça c'est.
Non, c'est pas une vidéo, c'est un peu plutôt. En fait, c'est un truc qui arrive jamais, donc je sais pas du tout quel.
Ah oui, si on met plus... Il ne faut jamais changer de source.
C'est pas comme ça que ça se fait normalement. Voilà.
Ah, parfait.
Donc, laser.
Ouais, ouais, j'essaye.
C'est peut-être moi qui ai appuyé. C'est peut-être moi.
Donc, du coup, on est dans la Voie lactée, donc avec la taille d'une petite bactérie par rapport à la Terre. Et finalement, notre Voie lactée, elle-même, n'est pas seule. Elle est dans ce qu'on appelle le groupe local. Donc, en fait, c'est un groupe de galaxies. Donc, il y a une quarantaine de galaxies qui interagissent entre elles, qui sont liées gravitationnellement. Et nous, en fait, on est parmi les plus massives. Donc, on est dans les trois capitales. Il y a trois grosses galaxies massives. Donc, Andromède, qu'on connaît bien, qui nous fonce dessus. Une plus petite, et puis nous. Et puis, finalement, des galaxies plus naines tout autour. Et on n'est pas non plus seul en tant que groupe local. En fait, on fait partie d'une plus grosse structure qui est proche de l'amas de la Vierge. Donc là, on rentre dans, justement, qu'est-ce qu'un amas, la taille des amas. Et donc voilà, nous, on est là. Et finalement, ce qu'on va voir pendant toute cette présentation, c'est des structures de cette taille. Donc en fait, le groupe local, c'est encore une fois quelque chose qui est un peu éloigné. On n'est pas dans... les régions les plus denses, où il se passe le plus de choses, etc. Mais finalement, on est plutôt à l'écart, tranquillement, voisin de l'amas de la Vierge. Donc avec tous ces groupes et ces galaxies qui font cette sorte de structure allongée qu'on verra plus tard. Donc qu'est-ce que c'est qu'un amas? Maintenant qu'on a vu le nôtre, qu'est-ce que c'est en général et comment est-ce qu'on les observe? Donc en fait, on les observe avant tout grâce aux galaxies. Donc un amas, la première définition, c'est juste des galaxies liées entre elles gravitationnellement. Donc d'une dizaine à une centaine, selon la masse. En haut, on en a un très massif, en bas, un moins massif. Et donc ces galaxies, on les voit parce qu'elles émettent dans le visible. Donc en fait, c'est la lumière des étoiles qui directement nous parvient, avec des étoiles jaunes, des étoiles un peu rouges, des étoiles un peu bleues. Ça fait les galaxies, c'est de la lumière qu'on voit. Jusqu'ici, tout va bien. Et finalement, les amas, c'est aussi du gaz chaud. Donc finalement, c'est du plasma, parce qu'en fait, c'est de l'ordre de 10 puissance 7 Kelvin. Donc du plasma très chaud, qui est dans les amas, dans le cœur, et qui du coup, cette fois, va émettre en rayon X. Donc étant donné que c'est du plasma, il va être beaucoup plus énergétique. Donc là, c'est une lumière qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qu'on connaît bien, les rayons X. Donc voilà, plus énergétique. On a des appareils pour les voir, tout va bien. Et au final, si on prend les étoiles et le gaz, eh ben, on n'a que 20% de la matière des amas. Donc du coup, il y a 80%, on ne les voit pas, mais on sait qu'ils sont là. Donc on va voir pourquoi on sait qu'ils sont là et qu'est-ce que c'est, même si je pense que vous en doutez. Qu'est-ce qu'il nous reste? La matière noire. Donc c'est de la matière qu'on ne peut pas voir, invisible, mais qu'on sait qu'elle est présente parce qu'elle agit gravitationnellement. Donc on peut repartir de Einstein. Alors la masse courbe l'espace, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un tissu tendu, on met une boule au milieu, ça le courbe. Et finalement, c'est ça qui se passe dans nos amas, c'est qu'on constate que l'espace est tellement courbé que du coup, il y a de la masse qu'on ne voit pas, mais de la masse qui est là quand même. Donc à l'échelle des amas, on peut imaginer qu'au loin, on a une galaxie. Donc logiquement, tout se passe bien, on la regarde, on voit sa lumière. Mais si on met un amas en fait, devant nous, donc on a la galaxie au fond, et finalement le fait qu'il y ait cette grosse structure fait que du coup, je vais voir la galaxie à côté, et je vais la voir déformée. Et donc, si j'étudie ces déformations, je peux retrouver la masse qui est là, en fait. Donc, quand il y a un alignement parfait entre moi, la masse, et ce qui me produit de la lumière derrière, donc une galaxie très lointaine, et ben du coup, ça fait ce qu'on appelle une lentille forte. Donc, c'est vraiment de l'optique gravitationnelle. Donc, l'optique, comme on la connaît, on utilise les mêmes équations. Mais, sauf qu'au lieu que ce soit une lentille comme une loupe ou mes lunettes, et ben en fait, c'est de la masse. Et du coup, ça fait des déformations, des mirages optiques, soit très prononcés, donc ça c'est ce qu'on appelle des arcs d'Einstein. Donc on peut voir ici quelques exemples qui ont été vraiment observés. Donc c'est vraiment ce qu'on voit dans le ciel. Donc au début, je pense qu'ils se sont posés beaucoup de questions quand ils ont vu ça, parce que ça n'a pas la forme d'une galaxie normale. Mais finalement, c'est arrivé un peu en même temps qu'Einstein, donc c'était attendu et prédit. Et plus finement, on peut voir ce qu'on appelle des lentilles faibles. C'est en fait tout ce qui est un peu derrière va être très légèrement déformé. Et si on regarde toutes les petites déformations et qu'on fait la moyenne statistique, eh ben on va pouvoir retrouver la masse de ce qu'il y a au milieu, entre nous et les sources. Et donc, en fait, quand on regarde un amas, là, on a d'un côté les grosses déformations qui vont nous dire quelle est la masse qu'il y a là, et de l'autre côté, on peut voir vite fait qu'il y a des petites déformations un peu partout, tout a tendance à être comme ça. Et ça, c'est le fait qu'il y ait une lentille devant. Donc, grâce à ces observations, en regardant toutes les petites déformations, on peut retrouver la matière noire. Donc là, c'est ce qu'on a mis en bleu. Donc, en vrai, elle est invisible. On a décidé de la colorier en bleu pour voir où est-ce qu'elle se distribue dans l'amas. Et en fait, on peut même voir par rapport au gaz. Donc, en rose, c'est le gaz très chaud qui émet en X, que lui, on peut observer par les télescopes X, comme on fait des radios à l'hôpital, et la matière noire, donc avec l'optique gravitationnelle, on fait la moyenne, on trouve les taches bleues. Et finalement, on peut voir que bah, des fois, le gaz y suit la matière noire, et des fois, pas du tout. Donc, on peut se demander pourquoi. Donc, des fois, on va avoir des amas où finalement, bon, le rose suit plutôt le bleu, plasma, matière noire, ils sont au même endroit, tout va bien. Donc, on imagine un amas. Et finalement, tout est un peu mélangé. Les galaxies, le gaz, la matière noire, c'est très bien mélangé. Et il y a des endroits où on peut se poser plus de questions. Et en fait, on sait... Du coup, j'avance sur le talk, mais du coup, vous le verrez en plus après. On sait que le plasma, il est collisionnel. Donc en fait, quand le plasma se confronte l'un contre l'autre, ça va créer des jets, ça va créer... Il ne peut pas réagir comme ça tout seul. Quand on mélange des fluides, de l'huile, de l'eau, etc., il se passe des choses. Alors que la matière noire, on dit qu'elle est non collisionnelle. Elle suit son chemin. Elle ne sera jamais arrêtée par rien. Et donc, en fait, c'est finalement des structures qui sont en train de fusionner. Donc, on peut imaginer, par exemple, que lui est rentré dans lui et inversement. Le gaz, lui, reste encore au milieu parce que c'est en train de se mélanger. Mais finalement, les deux qui étaient en train de fusionner, eux, ils n'ont pas de problème, vu que la matière noire, elle n'est pas arrêtée par la fusion. Donc là, on a vu les observations. Mais est-ce qu'on peut en savoir plus, un peu théoriquement, par nos simulations? Qu'est-ce qu'on comprend et comment est-ce que ça marche? D'autant plus que moi, je suis plus théoricienne et simulation. Donc, pour les questions d'observation, soyez indulgents. Donc, d'un point de vue théorique, ce qu'on sait, c'est que la matière noire, on l'a dit, elle courbe l'espace-temps. Donc, en fait, c'est des puits. C'est vraiment des puits, tout simplement, et des puits qui vont grossir au fur et à mesure du temps. Et à l'intérieur, en fait, vont se déposer cette matière ordinaire, celle qu'on connaît, le gaz, les étoiles, les galaxies, ils vont tomber à l'intérieur. Et c'est ainsi qu'on va former un amas, en fait. Donc, c'est des puits de potentiel de matière noire, d'abord, et la matière ordinaire, qu'on dit les baryons, qui tombent à l'intérieur et qui font ces structures qu'on voit grâce aux baryons, mais qu'on sait qu'ils sont plus massifs, plus profonds, grâce à la matière noire. Alors, comment ils se créent, ces puits de potentiel? Parce que du coup, je vous dis, ils sont là, mais je ne vous dis pas pourquoi, parce que c'est plus compliqué. Donc, en fait, grâce aux simulations numériques, donc vous avez eu le talk la semaine dernière pour ceux qui ont assisté, sinon, de toute façon, je vais faire un récapitulatif. Les simulations numériques, c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir modéliser l'univers. On met les équations qu'on comprend, donc la gravité, tout simplement, quand c'est juste la matière noire. Donc, on met des particules qui ont une masse, qui interagissent seulement par gravité, donc elles font rien d'autre que suivre la gravité qui fait qu'on tend à tomber sur quelque chose de plus massif. Et donc, du coup, en mettant juste ces équations de gravité et un grand nombre de particules de matière noire qu'on peut voir, donc tout au début, on voyait l'écran quasiment jaune. Donc, je vais vous le remettre. Donc voilà, tout au début, c'est quasiment jaune. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la matière noire un peu partout. C'est quasiment uniforme. Mais en fait, avec le temps, avec la gravité, ce qui se passe, c'est que peu à peu, les structures vont se former. Donc même une toute petite fluctuation, elle va avoir tendance à grandir. Donc s'il y a une toute petite différence, en fait, elle va grossir et elle va accumuler la matière qu'il y avait autour. Et c'est comme ça qu'au final, elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule. Et donc là, c'est beaucoup plus vite qu'avant, et là, c'est beaucoup plus massif qu'avant. Je le remets une dernière fois. Donc vous voyez vraiment qu'en fait, tout se contracte, la masse va vraiment, les vides se vident, et les régions plus massives accrètent et accrètent de la matière. Et en fait, on peut le voir aussi ici, tout simplement, c'est qu'en fait, la matière, elle va aller progressivement des régions un peu sous-denses, jusqu'à ce qu'on voit des filaments, et des filaments vers ce qu'on appelle des nœuds. Donc en fait, ce type de structure, qui est un peu particulière quand même, qui nous fait un peu penser à un arbre, un réseau neuronal. Donc vous avez peut-être l'image des neurones qu'on a en biologie. Mais en fait, c'est un peu ce même type de structure, c'est une toile cosmique. Donc c'est-à-dire que c'est une toile, donc avec des vides, des régions vraiment qui sont vides, où on a très peu de galaxies, des filaments, donc ces régions un peu allongées, comme on a pu le voir au début avec l'amas de la Vierge. Donc en fait, nous, on est plutôt dans un filament qui est accroché à l'amas de la Vierge, et des nœuds, et ces nœuds, en fait, c'est là que sont les amas. Donc les amas, en fait, c'est les structures les plus massives de notre univers, qui accrètent de la matière encore et encore, et qui, en fait, vident l'univers. C'est-à-dire qu'eux, ils accrètent de la matière, ils grossissent, et ils mettent au régime toutes les autres régions. Et donc, théoriquement, on peut l'expliquer. Donc, en fait, si on prend vraiment la théorie de la gravité, donc ça, c'est pas forcément nécessaire de comprendre, mais c'est plus, voilà, pour aller plus loin. On peut supposer qu'en fait, si on a une perturbation, on a quelque chose, vous imaginez, de la pâte à modeler, une boule de pâte à modeler. Même si on veut l'écraser, on va avoir toujours tendance à l'écraser selon une petite direction, peut-être un peu plus privilégiée. Et du coup, au final, ça va nous faire ce qu'on appelle un pancake. On va finalement se retrouver avec un truc assez aplati. Et si, là, on se dit, mais non, mais moi, je ne voulais pas quelque chose de plat, de pancake, on l'écrase selon une autre direction, là, on va se retrouver avec une forme de filament, donc c'est-à-dire vraiment une saucisse allongée. Et si l'on l'écrase selon la troisième direction, on va avoir un nœud. Donc en fait, c'est ça qui se passe théoriquement. On peut l'expliquer, c'est la gravité. C'est-à-dire que si on a de la matière un peu partout, d'abord, elle va fusionner selon une direction, ensuite selon deux directions, et enfin selon trois directions. Et juste avec ça, on peut expliquer la toile cosmique, la structure de l'univers, comment est-ce qu'elle s'agence, comment est-ce que elle est représentée. Et on va voir si c'est vrai dans les observations plus tard. Mais continuons avec les simulations. Donc on a vu pour la matière noire. Donc la matière noire, donc finalement, elle est accrétée, elle tombe de plus en plus vers le centre, et elle va faire l'amas. Mais en fait, on a aussi ce qu'on avait, c'est-à-dire la matière ordinaire qu'on connaît, qui est du gaz chaud et des étoiles. Et comme on l'avait dit, en fait, la matière noire, c'est 80%. Donc finalement, on voit sur l'image que bon, bah, quasiment tout est de la matière noire. C'est ce que nous, on sait par les simulations, mais qu'on a des difficultés à voir. On va avoir le gaz. Donc là, il est coloré en fonction de sa température. Donc en fait, on se retrouve avec un cœur rouge. Donc c'est vraiment le gaz chaud qui est au centre de l'amas, qui va émettre en rayon X et qu'on va pouvoir observer. Et finalement, il n'y a que très peu d'étoiles, de galaxies, donc on a dit qu'ils ne représentent que 5%. Donc vraiment 5% par rapport aux 80%. Et finalement, c'est pourtant ce qu'on observe le plus. C'est le plus facile, c'est invisible. Même avec un petit télescope dans le jardin, on pourrait presque voir M31. Donc, comment ça marche plus précisément pour la matière ordinaire? Alors, est-ce que ça va se lancer? Ouais. La matière ordinaire, celle qu'on connaît, celle dont on est faite, les atomes, tout ce qu'on connaît, elle est beaucoup plus compliquée que la matière noire. Bah, vu qu'on ne sait pas ce qu'est la matière noire, on a juste dit, elle fait que de la gravité. La matière qu'on connaît, on sait qu'il y a plein de forces. On sait que quand on allume la gazinière, ça chauffe, il y a des processus de chauffage, si on va dans le frigo, ça se refroidit. Si on fait exploser des pétards, il y a des explosions. On la maîtrise plutôt bien, ce qui s'appelle l'hydrodynamique, en général. Donc c'est toutes les lois qu'on connaît de comment se déplace un fluide en physique, etc. Donc c'est utilisé pour faire nos canalisations, pour faire les centrales, même les centrales atomiques, ou même les barrages pour créer de l'électricité, etc. Donc toute cette physique, on la connaît bien. Et en fait, on peut l'ajouter dans les simulations. Donc en plus d'avoir juste des particules de matière noire, où bon, on se dit bon, bah, ça collisionne sans cesse, ça s'accumule. On rajoute toutes les lois compliquées de la physique des fluides qu'on connaît sur Terre. Et ça permet de faire ce qu'on appelle des simulations hydrodynamiques. Donc on a la matière noire plus tout ce qui est un peu plus compliqué. La matière collisionnelle, celle qu'on connaît. Et donc comme on le voit dans le film, où là on voit que la matière collisionnelle, bah, finalement, il se passe beaucoup de choses. En fait, on a typiquement le gaz entre chaud, le plasma chaud qui va plus émettre en X, qui subit beaucoup de mouvements, qui en fait est créé, expulsé par des fusions. On a en bleu, en fait, c'est typiquement le gaz froid, mais globalement, c'est ce qui nourrit une galaxie. Donc on peut dire que c'est les galaxies. On voit clairement des petites galaxies qui sont en train de tomber. Et en fait, je vais relancer le film, quand ces petites galaxies elles s'entrechoquent, on voit que ça fait une explosion et que du coup, ça va réchauffer le gaz. Le fait qu'elles fusionnent, ça va créer un événement de fusion qui va avoir tendance à chauffer le gaz. Donc un premier chauffage, éjection du gaz, ça va être par la fusion des galaxies. On va avoir aussi ce qu'on appelle des trous noirs supermassifs. Donc c'est qu'au centre d'une galaxie, on a un trou noir. Et finalement, ce trou noir, quand il se nourrit de gaz, d'étoiles, etc. Et il expulse en retour du gaz chaud. Et ça, c'est des vraies observations. Donc c'est vraiment ce qu'on voit. Donc nous, on le sait que c'est comme ça. Après, on essaye de le twister pour l'ajouter dans nos simulations et dire, bon, on sait que ça se passe comme ça, fais en sorte que ça se passe comme ça. Une dernière chose, c'est les explosions d'étoiles. Donc pour l'instant, notre Soleil, il est plutôt stable, mais toutes les étoiles ont une vie, une naissance et une mort. Et lorsqu'une étoile meurt, elle va exploser, en fait. Donc, par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est une observation. Et en fait, c'est la nébuleuse du crabe. Donc, c'est une nébuleuse qu'on peut voir. Et quand on dit nébuleuse, en général, c'est en fait une étoile qui a explosé et qui a laissé son gaz et tous les métaux qu'elle a créés autour d'elle. Elle fait une sorte de bulle de gaz. Donc, elle aussi, elle va contribuer à créer ce gaz chaud. Donc on peut re-regarder le film et on voit ces bulles qui se créent peu à peu par des fusions. Et voilà. Et à la fin, on a un groupe de galaxies. Ici, c'est un peu plus petit qu'un amas. Donc un groupe, ça va être une dizaine de galaxies ensemble. Un amas, ça va plutôt être dizaine à la centaine. Mais finalement, voilà comment se mixe la matière ordinaire, qui, elle, va être beaucoup plus complexe. Et n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, mais aussi, si vous êtes intéressé, il y a la conférence du mois dernier qui parlait que de ça, justement. Donc, du coup, on a vu que les amas, ils étaient au centre, au nœud de la toile. Donc, qu'il y a cette toile, un peu cette toile d'araignée plutôt neuronale, et que les amas, eux, ils sont à l'intersection. Il y a des filaments, ils se connectent à ces filaments, et ces filaments, c'est les autoroutes selon lesquelles ils accrètent de la matière. Donc, on peut imaginer comme un fleuve, et en fait, ça circule dans les filaments pour arriver jusqu'aux amas. Donc, du coup, les amas, ils sont un peu cruciaux pour comprendre l'univers. Parce que c'est les objets les plus massifs, c'est ceux qu'on va pouvoir voir du coup le plus facilement, puisqu'ils réunissent plein de galaxies, et c'est ceux qui sont les nœuds de la toile qui est plus grande. Donc du coup, voilà pourquoi moi je les étudie, et on est plusieurs, pour comprendre en fait comment est-ce que la matière elle va s'agencer dans l'univers, et comment est-ce qu'elle évolue cette structure, mais aussi les amas. Comprendre comment l'univers évolue et comment il s'assemble, en fait, ça peut se faire via les amas, parce que c'est des régions qui sont vraiment privilégiées. C'est un peu les capitales d'un pays. Si on veut voir les déplacements de population, etc., bah, regardez sur la capitale, des fois, c'est plus facile. Un petit peu le même principe. Donc, du coup, maintenant, on va revenir aux observations pour voir si, finalement, tout ce que je vous ai expliqué théoriquement, est-ce que ça marche dans les observations ? Donc, observationnellement, si nous, on est ici et qu'on regarde le ciel avec des super télescopes, on va pouvoir mettre un point sur chaque galaxie qu'on voit. Et donc, finalement, tous les points jaunes, c'est une seule galaxie. Un seul point, c'est une galaxie. Donc, on voit globalement, en fait, si on trace toutes les galaxies entre nous et le ciel, on retrouve bien en fait cette structure un peu filamentaire. Là, on la voit, on se dit, bon, les simulations, elles n'ont pas trop tort. Mais alors du coup, il faut quand même faire attention que ça, ce qu'on observe, c'est l'univers actuel. Donc là, c'est assez proche de nous. Et quand on regarde le ciel, plus on regarde loin, plus on regarde finalement dans le passé, parce que la lumière, elle nous met du temps à venir jusqu'à nous. Donc, rien qu'entre nous et le soleil, on le voit comme il y a 8 minutes. Donc, si le soleil il s'éteint, dans 8 minutes, on va se rendre compte qu'il s'éteint. On va mettre 8 minutes à s'en rendre compte. Donc, du coup, je vous ai mis une petite citation d'Hubert Reeves, parce que moi, il m'avait beaucoup inspiré pour faire de l'astrophysique quand j'étais au collège. Et donc, en l'occurrence, du coup, il nous dit que quand on observe un astre lointain, on le voit tel qu'il était dans ce passé lointain et pas tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, regarder au loin, c'est regarder comment l'univers il était plus jeune, plus tôt. Donc, on va passer sur une autre observation qui est cruciale pour la cosmologie, un petit peu compliquée à comprendre, mais qui va prendre tout son sens juste après, c'est le fond diffus cosmologique. Donc en fait, c'est cette carte un peu bizarre là. Donc nous, on est là, et en fait, peu importe où on regarde, partout, on est entouré de ce rayonnement très très lointain, qui est en fait la première lumière que l'univers il a émis. Et ça a été découvert par hasard. Donc, en fait, il y a des physiciens qui cherchaient ce rayonnement qu'ils l'avaient prédit. Donc, on va voir d'où il vient juste après. Qui s'était dit, bah voilà, à un moment, ça a dû, dans l'univers, émettre beaucoup de lumière, très lointain dans le passé ou à une époque très jeune de l'univers. Et on le cherche. Et finalement, il y avait eu un peu une erreur de calcul entre ce qu'on s'attendait et à quelle fréquence il fallait regarder. Et ces deux Américains, dont j'ai oublié le nom, qui, en fait, eux, faisaient plutôt de la téléphonie. Ils avaient leur antenne et ils ont vu un bruit parasite. Donc, ils ont nettoyé leur antenne, ils ont essayé de comprendre. Le bruit parasite, il était tout le temps là. Donc, ils ont fini par dire à des physiciens, « Bon, on a trouvé un bruit parasite, là. Il s'en va jamais. On ne sait pas d'où il vient. Ça nous saoule. Nous, on veut faire du téléphone. Et ça nous parasite. » Et ils ont dit, mais ce signal parasite, nous, c'est ce qu'on cherche depuis 20-30 ans. Donc, voilà. Donc, du coup, ils ont eu un prix Nobel sur une découverte pas voulue. Donc, en fait, cette lumière, d'où elle vient, plus précisément, donc cette première photo de l'univers. Donc, on a le Big Bang, l'inflation, le fait que ça grandit exponentiellement à un moment. Bon, ça, c'est vraiment pour les théoriciens très débattus. Je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après l'inflation, on avait une sorte de bouillie cosmique. Donc les particules telles qu'on les connaît, on a les protons, les neutrons, les électrons, ce qui constitue un atome, ce qui nous constitue. Et bien à l'époque, c'était tellement énergétique, l'univers était tellement petit, et du coup tellement condensé, que du coup c'était une bouillie. Elle était ultra chaude, ultra mélangée, et finalement, vu que l'univers est en expansion, petit à petit, c'est devenu assez large pour qu'il soit moins en bouillie, mais qu'il y ait des grumeaux qui se séparent. Et le fait que les grumeaux se séparent, on fait que du coup, les photons, les particules de lumière, ont pu partir d'un seul coup, et c'est ces photons qu'on voit encore aujourd'hui. Donc nous, on est ici, à 13,7 milliards d'années plus tard. Et cette première photo, elle nous arrive encore. Parce qu'en fait, elle était tellement énergétique que finalement, on peut maintenant l'observer avec des gigahertz. Bon, après, pour la suite de comment est-ce que ça a évolué, petit à petit, ça s'est aggloméré. Donc d'abord, du coup, cette bouillie, elle a pu se rassembler pour faire des atomes. Finalement, ces atomes, ils ont pu se rassembler pour faire les premières étoiles. Finalement, ces premières étoiles ont pu se rassembler pour faire les premières galaxies. Et finalement, les galaxies ont pu se rassembler pour faire la toile cosmique, celle qu'on observe aujourd'hui. Donc on a vraiment une différence entre les observations d'aujourd'hui, qu'on peut voir facilement avec la toile cosmique, et cette première image lointaine. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette image lointaine ? Parce que je vous ai parlé des puits de potentiel. Je vous ai dit, ils étaient là, et puis ils ont grossi. Et d'où ils viennent ? Et en fait, on se dit qu'ils viennent de là. On se dit qu'au départ, il y avait déjà des tout petits puits. Et qu'en fait, ils n'ont fait que grandir et créer ce qu'on a actuellement. Donc, même si c'est en fait quasiment uniforme, parce que c'est une carte de température, et en fait, les différences de température, elles sont de 10-5, c'est vraiment ridicule, mais finalement, une toute petite différence a pu continuer à grossir. Et au contraire, les régions un tout petit peu plus froides, elles ont continué à se vider pour que 13 milliards d'années plus tard, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même très bien défini. On a des vides qui sont quasiment vides et à l'inverse, des amas où il y a des centaines de galaxies qui sont ensemble. Donc du coup, on a pu voir un peu les observations et les simulations. Donc les observations, finalement, ce qu'on voit, c'est très peu. C'est juste les étoiles qui viennent des galaxies. Donc on voit quelques petits points qui sont nos galaxies. Ça ressemble un peu à l'image de l'amas de la Vierge qu'on a vu. Et puis quand on zoome vraiment sur un amas qu'on essaye de regarder en X, bon, on voit un peu son gaz. Mais on n'a pas les capacités de faire les cartes de gaz partout. Donc on voit, voilà, 5% et un petit peu de gaz. Est-ce qu'on sait des simulations, ou en tout cas qu'on pense savoir, si on connaît la vérité, c'est une superbe toile cosmique, plein de filaments, comment est-ce que ça évolue là-dedans, grâce à nos ordinateurs. Et une méthode scientifique qui est possible, qui est mon cas, c'est d'être à l'interface entre les deux. Donc il y a des gens qui vont travailler que sur les simulations, donc ils vont vraiment développer des codes pour que ce soit de plus en plus réaliste, que les galaxies, comment ça marche quand elles fusionnent, qui vont faire des super vidéos pour voir comment ça marche. Il y a des gens qui vont travailler plus sur « moi, je veux un super télescope pour voir mieux les rayons X pour pouvoir comprendre le gaz qu'il y a à l'intérieur dans cet amas, etc. Et il y a des gens qui sont un peu comme moi, qui sont entre les deux et qui disent bah, je vais prendre des simulations, je vais regarder les observations et puis je vais comparer pour voir qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on ne comprend pas entre ce qu'on croit être vrai et ce qui est vrai, logiquement notre univers. Et bah, est-ce que ça marche du coup? Est-ce que ça reproduit l'univers? Est-ce que ça peut nous en apprendre plus? Du coup, quand on sait que c'est vrai, on peut se dire « Ah, mais du coup, il y a ça qui est caché, mais qu'on ne peut pas voir à cause de la matière noire qui est difficile, des choses comme ça. » Et on peut aussi voir des défauts. « Ah, bah, j'ai trop de galaxies rouges dans ma simulation, alors qu'en fait, dans les observations, j'en ai très peu. Donc en fait, mes simulations, il y a un problème. Ils me créent trop de galaxies rouges, les étoiles, elles explosent trop, des choses comme ça. » Donc du coup, on peut comparer directement observation et simulation. Donc là, on se balade dans une simulation ou dans un catalogue de galaxies du SDSS, je crois. Et donc vous pouvez voir que globalement, on reproduit vachement bien les distributions de galaxies. Donc chaque point, c'est une galaxie. Des fois, on va passer à côté d'une, donc on va la voir un petit peu mieux. Et finalement, on voit un peu déjà cette structure filamentaire, rien qu'avec les galaxies. Mais nous, ici, on s'intéresse aux filaments. Donc en fait, nous, on voudrait avoir la route, mais on n'a que les voitures. Donc des fois, quand il y a des petites routes, bah, du coup, on ne peut pas du tout les voir. Donc là, on a des points qu'on peut dire qui sont les galaxies. Ah. Et on essaye de raccorder les points pour faire des filaments. Donc entre ce qu'on voit et retrouver les structures filamentaires. Donc c'est un travail en soi. On utilise des algorithmes qui permettent voilà, d'essayer de relier ces points de manière optimale pour que ça fasse sens et qu'on crée des structures qui font sens. Et ça m'amène justement à ce que je fais actuellement avec certains collègues, c'est faire un peu ce travail, en plus perfectionné bien sûr, sur les nouvelles observations Euclide. Donc Euclide, l'IAP est très engagée dans cette mission spatiale. C'est du coup une mission spatiale qui a été validée par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en 2011, et ensuite qui a été lancée en juillet 2023. Ok. Donc, qui a été lancé en 2023. Et finalement, donc, aujourd'hui, on commence à avoir les premières images que je vais pouvoir vous montrer. Donc, pour parler vite fait en chiffres, ça rassemble 18 pays. Donc, majoritairement 15 pays d'Europe, et puis les USA, le Canada et le Japon. Donc, on peut compter 2600 chercheurs, techniciens, ingénieurs. Et ça a pour but de cartographier les galaxies et à différents âges de l'univers. Donc pour qu'on voit justement comment s'est formée ces structures. Aller pas non plus du fond diffus cosmologique jusqu'à maintenant, mais aller quand même à des âges avancés, la moitié de l'âge de l'univers, pour voir comment tout ça s'est agencé. Donc là, il a été envoyé du coup depuis un an et demi. Donc il va être pour une durée de 6 ans, qui pourra être étendue. Et il a pour but de prendre un tiers du ciel et vraiment de compter quasiment toutes les galaxies pour qu'on ait des grands champs de vue ou après tracer nos filaments. Donc c'est pas son seul but, moi c'est pour ça que je l'utilise majoritairement, mais plus largement, son but c'est de comprendre comment évoluent les structures de l'univers, sonder l'expansion de l'univers, dont on va parler après, le fait que ça grandit de plus en plus l'univers, ce qui est dû à l'énergie noire, une autre composante qu'on ne connaît pas, et comprendre justement la matière noire dont je vous ai parlé, que même si on la comprend, on ne la connaît pas. Et donc voilà. Et pour l'instant, il est à un point donc assez proche de la Terre, au point Lagrange, et bah, il prend des photos du ciel en continu. Donc du coup, je vais vous montrer les observations publiques qui ont été faites récemment, qui sont un peu dans les premières images de Clean. Donc, qui nous enthousiasme beaucoup. J'espère que vous avez trouvé les images super belles. Donc ça, en fait, c'est une carte du ciel Donc, vu sur un plan, comme on a les cartes de la Terre, donc une sphère écrasée. Et donc là, c'est notre Voie lactée. Et donc, nous, on peut regarder vraiment en haut et en bas, parce que là, on est dominé par la lumière de notre propre galaxie qui nous bloque tout. Là, ils ont fait des premières observations sur ce petit triangle qu'on peut voir plus précisément ici. Et on va faire des zooms de façon continue pour voir à quel point on peut voir toutes ces galaxies. Donc ça ne rend pas si bien ici, mais là, il faut se dire déjà que chaque point est une galaxie. Et on peut zoomer un peu plus. Donc là, en fait, c'était cette zone-là. On voit un peu le petit trait. Du coup, on se dit c'est un amas. Hop, si on zoome, là, on le voit encore mieux. Et si on zoome, on le voit encore mieux. Bon, là, vous allez plus être convaincu que c'est des galaxies. Ce qui fait un peu des stries comme ça, c'est des étoiles qu'on a devant nous. Donc du coup, à partir de ce type d'image où là, on a beaucoup de galaxies, typiquement, on pense qu'on est dans un amas, ce qu'on peut faire, c'est tracer les filaments avec nos algorithmes, comprendre où sont les amas, comprendre comment ils s'agencent dans ces filaments. Donc ce qu'on a vu théoriquement avant. Et pour le plaisir de les voir, et puis aussi parce qu'on va s'en servir, on peut même zoomer jusqu'à des galaxies. Donc cette galaxie-là, elle est zoomée ici, et ces deux petites galaxies, c'est un zoom de celle-là. Donc on passe de ça à ça. Et à la base, on part de ça. Donc on peut quand même zoomer, je crois que c'est x30, x300, x30, x10, et ainsi de suite. Donc avec ça, on est très content parce que déjà, on va pouvoir vraiment voir comment sont les galaxies, faire leur morphologie. Donc en fait, nous, on va utiliser ces galaxies, comme on a vu avant, où on va tracer les filaments. Donc, on peut imaginer les galaxies en arrière-plan et on va essayer de tracer les filaments. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au cœur des filaments qui se connectent, bah, en fait, on a un rassemblement de galaxies qui est en fait un amas. Donc, l'amas est à l'intersection des filaments, se connecte à la toile cosmique, comme on l'avait vu théoriquement, mais qu'on peut voir beaucoup mieux avec Euclide. Donc avec ça, on a commencé à essayer de faire de la science, même si pour l'instant, avec Euclide, on n'a que des petits champs de vue, et ça va s'élargir autour des 6 ans. Et dans 6 ans, on aura un tiers du ciel, et là, on pourra faire des grandes statistiques. Mais on a déjà commencé un petit peu. Donc pour ma part, j'ai regardé ce que j'appelle la connectivité des amas. Donc en fait, c'est tout simplement le nombre de filaments qui se connectent à un amas. Donc en fait, on peut regarder les amas, tracer les filaments, on l'a fait 100 fois, donc pour avoir plus de statistiques. Donc des fois, on enlève des galaxies, on en rajoute. Il y en a, on n'est pas sûr si elles sont là, il y a des erreurs, etc. Donc on fait un peu toutes ces statistiques pour être sûr. C'est pour ça qu'il y a plein de petits traits. Et quand les traits ils passent plusieurs fois au même endroit, on est sûr que c'est un filament. Donc on peut compter, tout simplement, en fait, le nombre de filaments qui sort d'un amas. Donc là, ça va être 3-4. Et là, ça va être plutôt 5-6. Et on peut faire, en fait, la connectivité, donc le nombre de filaments qui se connectent à un amas, sur la masse. Donc, à quel point il est massif. Donc ça, on peut le savoir par d'autres observations ou grâce aux galaxies qui sont à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on est massif, plus on est connecté dans la toile. Donc, en fait, il faut imaginer, genre, le gros neurone, il a beaucoup plus de synapses que le petit neurone qui en a que quelques-uns. Donc typiquement, un amas peu massif, un groupe, il va avoir 2-3 filaments, alors qu'un amas très massif, comme un peu celui-là, il va avoir jusqu'à 5-6 filaments qui le nourrissent, en fait. Donc c'est en accord avec la théorie qui nous dit qu'en fait, les amas, ils fusionnent entre eux. Ils passent de petits groupes à des amas plus massifs, Et au fur et à mesure qu'ils fusionnent, et ben en fait, leur connectivité à la toile, elle va augmenter. Donc du coup, on se dit, bon, on a bien compris un peu la formation des structures. C'est ce type de choses qu'on peut faire. Un autre type de choses qu'on peut faire, c'est cette fois regarder les galaxies, donc individuellement. Donc là, on a trois galaxies, par exemple, dans les trois petits carrés. Et en fait, on a nos filaments. Et ben, on peut regarder leur angle. Regarder si elles sont alignées ou pas au filament. Et en fait, on voit que les galaxies qui sont sans disque, elles vont avoir tendance à être parallèles au filament. Donc déjà, ça va nous dire des choses sur comment on pense que les galaxies, elles évoluent et elles se forment. Donc, on suppose, selon la théorie, qu'en fait, les galaxies vont tendance à avoir à être arrivées proches des filaments, à fusionner avec d'autres galaxies, par exemple, et à avoir tendance, par fusion, à briser leur disque. Et donc, du coup, par ce mouvement de fusion, elles vont en fait se retrouver parallèles. Donc, tous ces indicateurs peuvent nous donner des indices sur comment est-ce que ça se passe, en fait. Donc, pour finir, je vais vous donner des petites pistes sur les défis actuels. Là, je vous ai dit, bon, ça marche bien, on a tout compris. En fait, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, et là, ça va être la liste. Donc, d'abord, l'expansion de l'univers. Donc, je vous ai dit que ça grandissait, mais en fait, pourquoi ça grandit ? Qu'est-ce qu'on comprend de l'énergie noire ? Pas grand-chose. On sait que ça grandit, on sait à quelle vitesse, mais pourquoi ? On ne sait pas vraiment. Donc, comment ça marche l'expansion ? Il faut imaginer que dans le passé, donc, le volume de l'univers était plus petit qu'aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il ne fait qu'augmenter. Sauf que la quantité de matière qu'on a mis à l'intérieur, elle ne bouge pas. Donc si on augmente le volume et qu'on garde la même matière à l'intérieur, bah, du coup, c'est de plus en plus vide. Donc, par exemple, au début, je vous disais que c'était une bouillie, c'était tout petit. Et bah, du coup, toute la matière a été serrée entre elles. Et finalement, plus on a gonflé, plus on a pu créer des structures qui sont liées avec des filaments, etc. Mais si on continue de grandir et de grandir et de grandir, bah, la distance entre chaque galaxie, chaque amas, elle va être de plus en plus grande. Et ça, pourquoi je vous en parle ? Parce que, par exemple, avec les amas et la connectivité, on pourrait avoir des indicateurs là-dessus. Parce qu'en fait, si on avait la toile avant, on savait que c'était beaucoup plus connecté. Plus l'expansion de l'univers est grande, plus la toile elle va être étirée et plus il y aura, enfin, moins il y aura de filaments autour des amas. Donc si on peut mesurer parfaitement la connectivité, par exemple, à différents temps, on peut s'attendre à mieux comprendre comment est-ce qu'en fait ça s'élargit, ce volume. Donc c'est ce qui a été fait un petit peu théoriquement, mais pas dans les observations, où voilà, on sait déjà que par le passé, c'était beaucoup plus connecté, donc 6 filaments par exemple. Aujourd'hui, c'est plutôt 4-5, donc là c'est en 3 dimensions, ça change un peu des valeurs que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pour d'autres raisons. Et les deux courbes, en fait, c'est avec ou sans l'énergie sombre. Donc en fait, plus on ajoute d'énergie sombre, plus la connectivité elle va décroître rapidement, parce que plus on va étirer les structures. Donc un autre mystère, c'est la matière noire. On ne sait pas ce que c'est. Et en fait, si on change sa nature, donc pour l'instant, on suppose qu'elle est froide, cold dark matter, donc ça veut dire qu'elle n'interagit pas. Mais si on la prenait par exemple warm, donc tiède, on pourrait dire qu'elle a un petit peu des interactions. Comme on a vu que le gaz, il avait beaucoup d'interactions, etc., ben là, ce serait une sorte de petit gaz. Il pourrait avoir un peu de collisionnel, il se passerait des choses. Et du coup, on voit que ça changerait, en fait, les filaments autour des amas. Ça ne changerait pas leur nombre, mais ça changerait un peu leur forme, leur structure. Donc ce type de choses pourrait être abordé grâce aux amas. Et enfin, la dernière question actuelle, qui est moins grave, j'ai envie de dire, que les deux autres, c'est qu'on a vu qu'on avait le fond diffus cosmologique. Grâce à cette observation, en fait, on peut dire bon, bah, y avait 50 kg de baryon, 50 kg de matière ordinaire, qu'on connaît. Et en fait, si maintenant on regarde dans notre univers local, qu'on peut voir, qu'on peut parfaitement compter, on va en trouver 20. Sauf que ça n'a pas pu disparaître. Parce que ça, c'était le passé, ça, c'est le présent. Elle n'a pas disparu, elle n'a pas changé d'univers. Donc, on se dit, OK, il nous manque de la matière ordinaire. Donc, c'est la question, ce qui s'appelle en anglais les missing baryons. Où sont passés les baryons? Où est passée la matière ordinaire qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'on sait qu'elle était là dans le passé? Et en fait, on suppose qu'elle est dans les filaments. Donc, vous voyez, je vous disais, on ne peut pas voir tout le gaz parce que nos rayons X, nos télescopes X, ils ne sont pas parfaits. Donc, on ne voit que les petites taches roses pour l'instant. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux télescopes X qui se créent pour voir tout ça. Donc, pour avoir une sensibilité 50 fois supérieure. Et en fait, on pense qu'ils sont là, notre matière ordinaire. En fait, c'est du gaz. Mais juste, il n'est pas assez chaud. Et du coup, on ne peut pas le voir. Mais si on avait une sensibilité bien meilleure, on pourra le voir. Et du coup, on se dirait, bon, les comptes sont bons. Mais pour l'instant, les comptes ne sont pas bons. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que les amas de galaxies, c'est super important, que c'est les meilleures structures de l'univers, parce qu'elles régissent tout. elles sont au centre de la toile cosmique, elles attirent les galaxies, elles changent les galaxies, elles influencent le gaz, et du coup, on a besoin d'Euclide pour continuer à comprendre les amas. Merci.
Céline, voilà, ça y est. Ben voilà, vous savez presque tout sur les amas. Donc, vous allez pouvoir poser des questions. Et puis, il y a aussi quelques questions qui ont été posées et qui vont encore être posées sur le chat. Donc, voilà, on a du temps pour les questions. Je vais vous passer le micro. Attendez, s'il vous plaît, d'avoir le micro, parce que sinon, les personnes qui nous suivent sur YouTube n'entendent pas les questions. Et c'est très frustrant.
Merci beaucoup pour cet exposé très clair. La matière noire, est-ce que c'est un artifice mathématique de gravité ou est-ce qu'il y a des indices qui montrent qu'il y a du physique là-derrière? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
C'est une bonne question. En effet, justement, c'est pour ça qu'il y a des théories type monde où mathématiquement, juste, on modifie la gravité et du coup, ça marche. Mais finalement, même en modifiant juste les équations pour reproduire, ça marche pas parfaitement. Et c'est pour ça que le consensus reste sur la matière noire. Mais on attendait beaucoup, par exemple, du collisionneur de particules, etc., parce qu'on suppose que c'est une particule qu'on connaît pas, qui est très massive et qui interagit très peu. Donc on lui donne un nom qui s'appelle WIMP, W-I-M-P, que vous pouvez regarder sur Google. Donc on est plus sur cette théorie que sur une gravité modifiée. Mais rien n'est à exclure parce que pour l'instant, on ne sait pas.
Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez du fait que l'expansion de l'univers allait déconnecter les filaments les uns des autres progressivement. Est-ce que ça veut dire que... On se serait attendu au début de l'exposé à ce que ça puisse se densifier par action naturelle de la gravité. Est-ce que ça veut dire que l'expansion de l'univers va plus vite que la concentration de la matière faite par effet gravitationnel?
Vous avez super bien compris pour poser cette question. C'est en effet une problématique. Donc les deux sont vrais en fait. C'est que par gravité, on s'attend à ce que ça fusionne. Donc c'est pour ça que je disais que plus ça fusionne, plus il y a de filaments autour. Et à l'inverse, l'expansion déconnecte. Et en fait, il y a ces deux forces. Et donc du coup, vous l'avez très bien compris. Donc pour l'instant, on était dans une époque... Alors, où est-ce qu'il est ? Ah voilà. Donc, en fait, c'est mal représenté ici parce que, du coup, le cône, il fait toujours la même taille, il s'agrandit toujours de la même façon. Mais en vrai, pour l'instant, donc jusqu'à quelques milliards d'années, j'imagine, en fait, l'expansion n'était pas si importante. Donc, du coup, les structures se sont formées. Donc, il y a eu cette fusion, etc. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on arrive dans ce qui s'appelle l'époque de l'énergie sombre. Donc là, c'est l'énergie sombre qui commence à dominer. Et du coup, c'est pour ça que l'expansion, elle n'est pas seulement, c'est pas seulement en expansion, mais c'est en expansion accélérée. Et du coup, si on est dans des régions très denses, ça va continuer à fusionner, mais malgré tout, ça va se déconnecter au fur et à mesure. Et du coup, il y a vraiment cette bataille, comme vous l'avez compris. Donc ça dépend des régions et ça dépend des époques. Et c'est pour ça que Euclide, son but, c'est vraiment de regarder entre la formation de la toile cosmique et sa déconnexion. Parce que du coup, on se dit, du coup, c'est à ces époques où on en saura plus sur l'énergie noire.
D'autres questions ? Bon, je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais chercher quelques questions qui ont été posées sur le chat. Alors, il y a la même question qui a été posée, donc on n'y revient pas. Mais il y a aussi, il y en a d'autres. Alors, comment connaître la taille des amarres ?
Ah ! oui, alors on a plusieurs méthodes et du coup on a plusieurs rayons, on a plusieurs tailles. Donc soit on peut à peu près connaître leur taille par les galaxies. Donc en fait on peut se dire qu'à partir d'un certain rayon, elles sont liées gravitationnellement et à partir d'un autre, elles ne le sont plus. Soit on peut le connaître par le gaz, où en fait, on a ce qu'on appelle l'équilibre du Viriel. Donc en fait, typiquement, l'amas, du coup, c'est un puits. Et en fait, vu qu'il y a du gaz chaud, il y a un équilibre entre la force de gravité, qui tend à ce que tout s'effondre, et la pression du gaz, les pressions qui tendent à ce qui s'étale et que tout se disperse. Et quand on a l'équilibre de ces forces, on dit que c'est la taille de l'amas, typiquement.
Merci. Alors, il y a une autre question qui est, est-ce que la matière noire est créée par l'évaporation des trous noirs ?
Bah, tout est possible. Je ne me... Je ne me prononcerai pas. Et c'est pour ça que j'ai mis une liste à la fin. Parce qu'à un moment, je pense, on a pu se dire que peut-être c'était quelque chose qu'on connaissait déjà, mais qu'on ne voyait pas. Parce que je vous ai dit, on ne voit pas le gaz tiède, par exemple. Donc, est-ce que ce ne serait pas encore quelque chose comme ça ? Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont posés la question, qui se sont dit, bah, est-ce que ce ne serait pas des mini-trous noirs qu'on n'arrive pas à voir, ou des naines brunes, donc des étoiles qui émettent quasiment pas de lumière, donc on ne les voit pas. Mais en fait, en faisant ce compte, on se dirait, bah, y en aurait besoin de beaucoup trop. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je dirais non, mais tout est possible.
Alors ensuite, comment une lumière émise il y a 14 milliards d'années peut-elle être visible ? Le photon est-il éternel ?
C'est une très bonne question. Je me suis moi-même reposé la question cet après-midi, du coup. Des fois, on s'y perd un peu. Mais en fait, même s'il a été émis, bon, pas tout à fait il y a 14 milliards d'années, mais bon, 13 milliards on va dire, en fait ça a été tellement énergétique déjà, que ça fait que même si c'était à des températures très hautes au début, aujourd'hui ça a perdu en énergie au fur et à mesure que ça s'est déplacé, et maintenant en fait on est à peu près à 2 Kelvin, donc à moins degrés. Et en fait, le photon, il a une vitesse qui est finie, donc il va mettre son temps à arriver, mais en soi, il est absorbé, réémis, donc quelque part, on peut dire qu'il est éternel. Enfin, justement, du coup, il y a cette problématique que cette image qu'on a là, finalement, elle est un peu biaisée par tout ce qu'on a devant. Donc il y a des gens, en fait, qui essayent d'enlever l'interaction de ça sur les photons du CMB.
Alors, puisqu'on parle du CMB, il y a une personne qui te demande, avez-vous un avis sur la tension de Hubble ? Je ne vois pas où est le problème. N'est-elle pas révélatrice de l'accélération de l'expansion ?
Est-ce que, ah, c'est le retour du concours CNRS. non, je n'ai pas trop de réponses. Je ne suis pas du tout une experte du CMB. Je trouvais ça intéressant pour que vous compreniez le cheminement de l'histoire. Mais dans le détail, je préfère pas me prononcer. Je préfère laisser la parole à des experts.
Et puis, une dernière question peut-être du chat. Est-ce que l'observation se fait par radiotélescope ou par télescope optique classique ? Tu en as quand même un peu parlé, mais il n'a peut-être pas écouté tout le temps.
Sur quelle observation ? En général ?
Observation, en général, oui.
Bah, du coup, en fait, ça peut se faire depuis le sol, pour certaines parties, pour les galaxies, entre autres, vu que c'est en optique, on arrive à pouvoir les voir. On a le Canada-France-Hawaï télescope CFHT, qui, par exemple, nous donne des bonnes mesures. Le SDSS aussi. Donc ça, c'est des mesures qui sont faites depuis le sol. En X-ray, on est plutôt directement dans l'espace. Euclide, qui est aussi pour le visible, il est dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on a des si belles images. Donc ça dépend.
Tout à fait d'accord. Une dernière question peut-être dans la salle, ou deux ?
Bonsoir. Je voulais savoir si vous faisiez des zooms, par exemple, sur le groupe local, pour savoir comment s'agencent les filaments de notre groupe local et à quoi il va ressembler plus tard, puisqu'on sait qu'Andromède nous arrive dessus à grande vitesse. Mais qu'en sera-t-il ultérieurement ? Est-ce qu'on va avoir une seule galaxie ?
Alors, oui, tout à fait. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, donc ce n'est pas mon cas. Mais pour vous donner un peu notre adresse cosmique, je voulais... vous le présenter, mais justement, il y a des gens qui sont experts juste de l'amas local. Donc en fait, le groupe local, c'est voilà, un petit amas groupe, qui est lui-même, en fait, donc j'ai dit voisin de l'amas de la Vierge pour pas vous confondre en idées, mais en fait, toute cette structure, on l'appelle le super amas de la Vierge, et il en fait partie. Et cette structure... elle-même fait partie d'une plus grosse structure qui s'appelle l'Aniakea. Donc, si vous cherchez l'Aniakea, vous allez pouvoir trouver plein d'informations, justement, sur ce qu'on pense du groupe local, où il est exactement. Ils essayent de faire des simulations pour voir, justement, comment est-ce que le groupe local, il évolue dans l'Aniakea, quelles sont les forces de gravité qui rentrent en jeu. Il y a une sorte de filament... enfin, il y a plusieurs... champs, enfin plusieurs routes qui se construisent, plusieurs filaments, plusieurs attracteurs. Il y a justement ce qu'on appelle le grand attracteur, donc tout tend vers lui. Donc oui, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Je vous conseille de taper l'Aniakea et vous allez voir des super simulations.
Une dernière question, il me semble qu'il y avait une main levée, voilà.
Bonjour, merci pour votre conférence, très intéressante. Au final, un amas de galaxies, c'est à quelle dimension ?
C'est une très bonne idée et j'ai... À un moment, je me suis dit, il faut que je le mette et après, j'ai encore oublié. Mais je voulais le mettre en taille compréhensible parce que je pourrais vous dire que c'est à peu près 2 mégaparsecs. Donc, je ne sais pas si tu peux m'aider, Florence.
Oui, ça fait une dizaine de millions d'années-lumière, en gros.
Oui, si vous connaissez les années-lumière, ça fait à peu près 8 années, 8 millions d'années-lumière de diamètre.
150
000.
Merci.
Mais très bien, je le rajouterai parce que...
Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette année. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. J'espère que vous aurez l'occasion de regarder le ciel parce que c'est quand même plus favorable en été qu'en hiver. Et que nous nous retrouverons donc tous le 2 septembre pour entendre parler des sursauts gamma. Et merci Céline.
Merci à vous d'être venu.